Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Spéculer sur la prochaine excentricité de Miley Cyrus, c'est partir perdant dès les starting blocks, constate Marie Ottavi dans Next. Car devinez ce que la jeune femme réserve à ses admirateurs. 24 millions de followers sur Twitter, 31 millions sur Instagram, se révèle quasiment impossible, tant la réalité dépasse à chaque fois toutes les supputations. Toujours plus nue, toujours plus provocatrice, la jeune femme, qui a fêté ses 23 ans le 23 novembre, a estomaqué le monde en arborant un god ceinture sur scène lors du lancement du Milky Milky Milk Tour, mini tournée de 8 dates en Amérique du Nord. Si l'on en croit ses propres déclarations, la chanteuse tente de faire parler d'elle et de s'accepter. Si vous sortez vos seins, les gens vous regardent, alors vous pouvez utiliser cet espace pour parler de quelque chose et les faire vous écouter, avait-elle déclaré dans le Elle américain l'an dernier, avant d'ajouter qu'elle se fichait de ce qu'on pouvait penser d'elle. Miley Cyrus n'a de cesse de faire oublier sa première vie de jeune fille sage, se vantant de fumer de la weed, affirmant sa pansexualité. « Je suis très ouverte, je suis pansexuelle », dit-elle, s'auto-proclamant hippie moderne, confiant qu'elle aime plus que tout vivre nue. Personne n'est aujourd'hui capable de dire ce que ces provocations à répétition signifient, car la musique de Miley Cyrus ne suit pas tout à fait le même parcours grivois. Miley Cyrus and Her Dead Pets, son dernier album, publié gratuitement sur le net au mois d'août, est majoritairement composé de ballades sirupeuses sans grand intérêt. À côté de l'épisode God Ceinture, la vidéo de Wrecking Ball, où elle enfourchait nue une boule de démolition, visionnée plus de 800 millions de fois sur YouTube en 2 ans, ou sa prestation au MTV Video Music Awards en 2013, où elle faisait mine de se masturber avec une main en mousse sous les yeux de Robin Thicke, paraissent presque mièvres. Miley Cyrus et Wayne Coyne des Flaming Lips ont annoncé en octobre qu'ils s'apprêtaient à donner un concert où tout le monde, même le public, devrait être nu. Les images salaces qu'elle offre au fil du temps aux réseaux sociaux tentent moins de susciter le désir, comme peut le faire une Rihanna, que de déranger, comme si son but était là, de dérider la planète. Et peut-être aussi de donner un sacré coup de vieux à ses aînés en matière de provocation, comme Madonna. « Esprit de Noël, es-tu là ?» interroge une brève du Parisien. À Bercy, le public lui avait pardonné ses 45 minutes de retard sans explication. Madonna avait multiplié les hommages et réservé plusieurs surprises, mais à Manchester, le 14 décembre, ses fans ont perdu patience et l'ont copieusement sifflé. La Madone l'a très mal pris et a fini par s'adresser à eux. « Ce n'est pas une affaire de diva capricieuse, je n'aime pas être en retard, je ne suis pas en coulisses à manger du chocolat, à me faire les ongles ou à vérifier mes extensions de cheveux. Ce soir, la vidéo est tombée en panne. Nous n'avions plus de vidéo et avons dû attendre que le système redémarre. Si vous, petite garce, vous voulez continuer à vous plaindre, ne venez pas à mon show. » En parlant de diva, Johanna Luisen a consacré il y a 2 mois un éditorial de Libération aux femmes artistes et aux soupçons d'hystérie qui leur est toujours attaché. « C'est curieux, la psyché féminine, écrit-elle. Prenons Patti Smith. La chanteuse américaine vient de faire cette chose extraordinaire qu'on ne peut imputer qu'à un afflux massif d'hormones. Elle change d'éditeur. » Après avoir publié son autobiographie « Just Kids » chez De Noël, la chanteuse passe chez Gallimard. L'Express relate la chose dans un indiscret au titre réprobateur. Patti Smith fait ça diva. Le texte commente l'exigence de la chanteuse qui a l'outrecuidance de trouver l'éditeur français de Philip Ross autrement plus chic, alors que De Noël n'avait pas démérité. 250 000 exemplaires de Just Kids écoulés. La conclusion tombe sévère. Vous avez dit caprice de diva. Diva, caprice, exigence, par le ton de la Castafiore, d'un enfant de 5 ans qui trépigne en réclamant du chocolat. Non, de l'interprète de Because the Night. Il est amusant de constater qu'en comparaison, lorsque Michel Houellebecq passe de Fayard à Flammarion, nul n'évoque un caprice d'enfant roi, mais plutôt le transfert du siècle, comme si la métaphore footballistique allait mieux aux hommes que le soupçon d'hystérie. Pendant ce temps, Héloïse Laetitier, alias Christine and the Queens, tweet ceci après la diffusion en ligne de son clip Paradis perdu. « C'est curieux, comme la moitié des papiers qui relient mes clips attribuent toujours mes idées aux hommes avec qui je collabore », écrit-elle, développant son propos qu'on résumera ainsi. « Lorsqu'une femme crée quelque chose en collaboration avec un homme, on finit souvent par attribuer la paternité du projet à ce dernier. » Christine n'est pas la seule à avoir ce sentiment. En janvier, Björk disait la même chose lors de la sortie de son album Vulnicura, que certains persistaient à présenter comme produit par Arca, alors qu'elle en est la coproductrice. N'oublions pas non plus cette phrase de Johnny Mitchell. « Toutes mes batailles se sont faites avec des égos masculins. Tout cela n'est donc pas nouveau. Mais voilà comment Le Parisien, via son site La Parisienne, relaye l'histoire avec ce titre qui nous ramène aux plus riches heures de la moyenne section de maternelle, Christine and the Queens pique sa crise. Élégant, non, mais il y a plus beau encore, car on le sait, La Parisienne est toujours du dernier chic. Ainsi, l'article établit une corrélation entre l'état de fatigue de la chanteuse et cette remarque. On nous explique donc que Christine a donné 101 concerts depuis un an et demi et que les tournées la fatiguent. Pas étonnant dans ce contexte de découvrir son coup de gueule, écrit La Parisienne. Et sinon, Christine a-t-elle ses règles? Est-elle sujette à l'hyperventilation? Où en est-elle de son dernier frottis? En 2015, conclut Johanna Luyssen, il serait intéressant que les coups de gueule des artistes ne soient pas considérés comme des sautes d'humeur de mégère au bord du burn-out, d'autant que la question que soulève Héloïse Laetitier est intéressante. L'histoire des arts est jonchée d'attributions masculines abusives et de femmes qu'on efface des registres, des romans de Colette usurpés par Willy, au rôle capital de Julia Daudet dans l'écriture des romans de son époux Alphonse. Enfin, on peut exiger que le terme diva retourne là d'où il vient, c'est-à-dire à l'opéra, lieu dans lequel on n'a, à notre connaissance, jamais vu Patti Smith.